Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Depuis quelques années, l'idée d'un impôt sur la richesse revient à intervalles réguliers, en général quand on s'approche d'une échéance électorale. Chaque parti a son point de vue sur la question, des points de vue parfois très éloignés qu'on va vous détailler dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Une taxe des millionnaires par-ci, les épaules les plus larges par-là. La question de la taxation des hauts capitaux est un des serpents de mer des campagnes électorales. Mais comment organiser un tel impôt? Qui doit-on considérer comme riche? À partir de quel montant est-on taxé et à quelle hauteur? Chaque parti va de sa proposition. Dominique Berns, du pôle économie, a fait le tri entre toutes ses idées. Il est passé en studio pour nous expliquer tout ça. Bonjour Dominique.
Bonjour Pierre.
Le dossier du Soir Éco de cette semaine est donc consacré à l'impôt sur la fortune avec un titre un peu provoque. Camarades, taxons les riches. Pourquoi est-ce que vous en êtes venu à travailler là-dessus? C'est la campagne électorale, les multiples propositions des différents partis qui vous ont donné envie de un peu mettre de l'ordre là-dedans?
Oui, absolument. L'impôt des millionnaires, la contribution des plus riches ou la taxation des hauts patrimoines, hein, selon le PTB, Colo, le PS, sera un sujet de campagne. Donc forcément, on va en débattre, les gens, les lecteurs du Soir, les citoyens de manière générale vont entendre parler. Il est bon de mettre un peu d'ordre, d'expliquer quelles sont les propositions des partis, et puis d'expliquer un peu aussi, plus largement, quels sont les tenants et aboutissants d'une telle taxation des plus riches. Même si on peut se demander si une telle proposition a quelques chances d'aboutir au cours de la prochaine législature.
Avant de se demander s'il faut taxer les riches et à quelle hauteur il faut les taxer, il faut d'abord déterminer ce que c'est d'être riche. Et là, c'est déjà compliqué de définir à partir de quel moment est-ce qu'on est considéré comme riche ou pas riche.
Oui, ben, on voit bien que les trois partis qui proposent un impôt sur la fortune, un impôt annuel récurrent sur la fortune, définissent différemment le niveau à partir duquel l'impôt serait prélevé, et même au-delà de ça, la base taxable n'est pas exactement la même. Écolo, par exemple, propose d'imposer sa contribution des plus riches à partir d'un patrimoine net de 1 million d'euros, net, c'est-à-dire déduction faite des dettes, mais Écolo veut également déduire la maison d'habitation, à concurrence 500 000 euros, et les avoirs utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle, les outils, les machines d'un menuisier, par exemple, à hauteur d'un million d'euros. Le PS, lui, fixe la barre à 1,25 million d'euros, également en excluant la maison d'habitation et les avoirs professionnels. Le PTB, lui, a mis la barre à 5 millions, il a terriblement revu sa proposition, puisque la taxe des millionnaires s'appliquerait désormais à partir de 5 millions. Mais par contre, il n'enlève pas la maison d'habitation, ni le patrimoine professionnel. Vous voyez, il y a pas mal de nuances. S'y retrouver et comparer les propositions n'est pas si simple.
C'est d'ailleurs sur la question de à quel moment est-ce qu'on détermine si quelqu'un est riche ou pas. C'est une question à laquelle vous répondez dans le cadre aussi de notre opération. Pourquoi ? Il y a un abonné qui nous a demandé pourquoi est-ce qu'aucun parti n'osait définir un seuil de riche à partir du moment où on n'a pas de problème à définir un seuil de pauvreté. Alors, c'est quoi la réponse à cette question? Pourquoi?
D'abord, soyons de bon compte. Dès le moment où vous proposez un impôt sur la fortune et que vous dites c'est à partir de tel moment qu'il s'applique, forcément, implicitement, vous définissez un seuil de richesse. Maintenant, il est vrai qu'on définit un seuil de pauvreté. On dira est pauvre celui qui gagne ou le ménage qui gagne 60% du revenu médian. Le revenu médian étant le revenu qui partage la population en deux. La moitié des Belges gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Alors, on pourrait très bien, en effet, définir un seuil de richesse. Il y a un petit problème aussi, c'est que dans le cas des pauvres, les pauvres n'ont pas de patrimoine. On est obligé d'en tenir compte. Dans le cadre d'un seuil de richesse, il faudrait trouver un système qui intègre à la fois les revenus et le patrimoine. Il est évident que deux familles aisées qui gagnent les mêmes revenus, mais dont l'un a sa maison est propriétaire de sa maison, l'a payée, et l'autre est en location, n'ont pas le même train de vie. Donc il faudrait introduire d'une manière ou d'autre le patrimoine dans la définition de seuil de richesse. Cela dit, la question fondamentale, c'est un seuil de richesse, pourquoi faire? Quel serait l'intérêt d'avoir un seuil de richesse? Ça, c'est une question à part pour introduire un impôt des millionnaires, bien entendu. On peut imaginer effectivement que dans l'avenir, vu les défis colossaux que nos gouvernements partout en Europe, mais en particulier en Belgique, vont devoir rencontrer, c'est-à-dire respecter des règles européennes, des règles budgétaires européennes qui impliqueront des efforts, dégager plus de moyens pour investir dans la transition, dégager des moyens additionnels pour investir dans la défense nationale, et bien voilà, des choix vont devoir être faits, des choix difficiles. Et à ce moment-là, pour toutes ces décisions, il faudra savoir quel est l'impact redistributif. Je veux supprimer ou réduire une dépense publique, en introduire une nouvelle, une dépense, en incitant à investir dans sa maison pour la transition, je dois savoir quel est l'impact redistributif. Qui va être touché ? Pas seulement épargner les pauvres et faire payer les plus riches, mais aussi savoir dans quelle mesure la classe moyenne, le haut de la classe moyenne, le bas de la classe moyenne va être affecté. N'oublions pas que la révolte des Gilets jaunes en France, ça part d'une mesure et finalement écologique, mais qui va frapper de manière disproportionnée une catégorie de la population qui ne sont pas très riches, qui ne vivent pas en ville et qui ont besoin de leur bagnole pour travailler, aller au supermarché, conduire les enfants à l'école, aller à la maternité ou aller à l'hôpital dans un contexte français de désertification importante des régions rurales avec de moins en moins donc, de supermarchés, d'hôpitaux et même de services publics. Voilà.
Là, pour en revenir à la question de l'impôt sur la fortune, vous avez donc sondé les différents partis. Vous l'avez dit en vitesse, il y en a trois qui plaident pour la mise en place d'une taxe, le PTB, Écolo et le PS. Mais ils n'ont pas tous la même approche dans la façon d'envisager cette taxe.
Oui, ce qui est le plus intéressant, outre, comme je vous l'ai expliqué, la question de la base taxable, est-ce qu'on exclut ou pas la maison d'habitation et puis à partir de quel niveau on est riche. L'intérêt des derniers événements, c'est que le PTB a revu sa position de manière très surprenante. La gauche radicale fixe la barre bien plus haut que la gauche de gouvernement, le Parti socialiste, et qu'Écolo.
La gauche radicale dit d'un coup, en fait, on n'est pas riche à 1 million d'euros, on est riche à 5 millions.
Oui, et étonnamment, ils disent, nous voulons protéger la classe moyenne, et même la classe moyenne aisée, qui, pour l'essentiel, a accumulé son patrimoine par le travail. C'est tout à fait original. On peut penser que c'est une tactique pour garder la main sur un dossier que le PTB entretient depuis des années et des années, pour un peu couper l'herbe sous le pied du PS et des colos, en disant, vous voyez, nous, on ne taxe pas quand même la classe moyenne, on est modéré quelque part. Je ne suis pas sûr que cela concourt à apporter de nombreuses voix de la classe moyenne, en particulier aisées, vers le PTB, mais la démarche était intéressante en tout cas.
Les engagés, eux, ils ont opté pour une autre approche, celle du a priori pas de taxes, sauf circonstances exceptionnelles.
Exactement. Les socio-chrétiens francophones ne sont pas favorables à un impôt sur la fortune. Ils n'en veulent pas. Ils disent par contre, il faut une réforme fiscale, il faut réformer globalement la fiscalité, aussi bien l'impôt des personnes physiques qui s'applique aux revenus travail que l'imposition du patrimoine et de ses revenus qui de fait est mal foutu, beurré d'exception et qui est fondamentalement totalement injuste. Je veux dire, parlons un exemple simple, les droits de succession sont très vite très élevés même pour des petits héritages alors que les grandes fortunes peuvent utiliser les services de planification successorale des experts fiscaux pour réduire la facture de leurs héritiers. Tout un tas de choses comme ça dans la taxation du patrimoine et ses revenus, qui crée beaucoup, beaucoup d'injustices. Et les engagés disent, cette réforme est nécessaire. Ce qui est vrai, si on ne l'a pas, on pourra, en cas de crise grave, comme pendant le corona, imposer une fois, deux fois, un an ou deux, une ponction exceptionnelle sur les plus riches. Cela dit, cette proposition avait été faite en 2020 face à la pandémie, elle n'a pas abouti, rappelons-le tout de même.
Le MR et DFI, eux, ils ne veulent pas entendre parler d'une telle taxe ?
Non, pour eux, pas question d'imposer le patrimoine. Mais là aussi, ils ont d'autres propositions de réforme fiscale. PS et Écolo également. Les diverses propositions visent toutes à réduire la taxation sur le travail et pour le reste, à harmoniser la taxation des revenus du capital, des revenus du patrimoine. Mais il y a quand même une différence. On a un parti comme Écolo, un parti comme le PTB, qui propose une globalisation des revenus, de revenir à une situation qui prévalait avant 82, où l'on additionne tous les revenus, qu'ils viennent du travail ou du patrimoine, et on les taxe au barème progressif de l'IPP, de l'impôt des personnes physiques.
Tout est taxé de la même façon, que ce soit les revenus du travail ou le patrimoine.
Exactement. Chaque euro gagné est taxé de la même manière. Les autres partis, eux, veulent conserver le système actuel, qui est un système dual. On taxe d'un côté les revenus du travail à l'IPP, et on taxe les revenus du capital selon d'autres règles. Mais d'autres règles, mais qui devraient être revues, disent-ils.
C'est peut-être ça la conclusion principale en fait de ce dossier, c'est que la fiscalité telle qu'elle est organisée aujourd'hui, tous les partis ont l'air de dire qu'il y a des problèmes et donc dans tous les cas, tout le monde voudrait une réforme.
Bah écoutez, cette réforme, elle l'attend au moins depuis 10 ans.
On a failli l'avoir pendant cette législature.
Oui, on a failli avoir la première partie d'une plus large réforme qu'a proposé donc le ministre des Finances fédérales, Vincent Van Petegem. Ça n'a pas abouti, tous les partis ne se sont pas entendus, mais il faut vous dire que la réforme globale de la fiscalité, elle est sur la table depuis au moins 10 ans. Il y a 10 ans, le Conseil supérieur des finances, qui à l'époque fonctionnait bien, et qui est composé, je vous le rappelle, d'interlocuteurs académiques ou spécialistes de tous horizons, des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, des PS, des écolos, des libéraux, donc avait abouti à un rapport qui présentait les grandes lignes d'une réforme fiscale qui est absolument nécessaire.
Et vous le disiez un tout petit peu au début, mais votre conclusion personnelle, c'est aussi que là, on est un peu dans l'agitation de campagne, que dans tous les cas, de tels types de réformes auraient quand même peu de chances de passer et peu de chances d'être concrètement mises en place.
S'agissant de l'impôt sur la fortune, c'est difficile à imaginer, de la mesure où de moins en moins de pays le font. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant même de débattre de l'impôt sur la fortune, il faut d'abord réformer la fiscalité telle qu'elle existe. Après, on peut débattre de l'impôt sur la fortune. C'est légitime. On aura des grands besoins d'investissement public. Il faut que chacun contribue à hauteur de ses capacités. Peut-être les plus riches doivent-ils y contribuer par une taxe spécifique sur le patrimoine. Tout ça est à discuter. Mais avant tout, réformons la fiscalité de manière globale. Les gens ont l'impression de payer tous plus que le voisin. C'est parfois vrai, c'est parfois pas vrai. Mais en tout cas, ça crée un climat délétère et surtout, ça ne permet pas de faire avancer les choses. Mais le problème, évidemment, c'est que à un certain moment, on devrait avoir à la direction du pays des vrais hommes d'État capables de faire des compromis et puis de se dire à un moment donné, nous sommes dans une situation d'urgence climatique, économique, énergétique, et les petits jeux électoraux, préélectoraux, les petits jeux de coq et les petits jeux de parti doivent céder le pas à une approche qui vise en fait à assurer l'avenir du pays, notamment en matière fiscale.
Merci Dominique.
Merci Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.